on continuerait. Hein. Pour ça, il me tarde le ciel. Il n'y aura plus de montre. Amen. Est-ce qu'on peut remercier ceux qui ont changé la déco? Vous savez, il y a plein de gens, de frères et sœurs qui travaillent. Vous avez remarqué que la déco a changé. Est-ce qu'on peut les remercier pour ça? Et on remercie au passage tous ceux et celles qui travaillent et ça ne se voit pas, le café, etc. Il y a plein de services qui sont là et qui sont pour la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes en forme. Plaisir de vous revoir. Vous savez, je ne sais pas qui... Est-ce que vous avez déjà fait une recherche généalogique de votre famille? Est-ce que ça vous est arrivé déjà? Oui, certains. Hein. Moi, je suis assez intéressé aussi parce que... Voilà, on a chacun des histoires un peu différentes. Puis des fois, on ne sait pas forcément toujours d'où on vient. C'est un petit peu des fois compliqué. Des fois, on a des bonnes surprises. Et moi, j'ai fait une recherche et j'ai retrouvé un aïeul qui vivait au XXe siècle. Bon, ce n'est pas très vieux. Hein, mais en réalité, c'est le XXe siècle avant Christ. Donc, c'est un petit peu plus ancien. Et j'ai découvert ça, donc j'ai fait la recherche, et j'ai trouvé qu'en fait, on avait finalement des liens de famille aussi avec vous. Il y en a qui me regardent, me disent « Ok ». Bon, écoutez, en tout cas, la recherche, elle s'est faite en prenant ma Bible. Et dans Romains 4, et au verset 16 et 17, écoutez bien, vous pouvez écouter, parce que finalement, ça concerne la majorité d'entre nous. Il est dit, voilà, pourquoi l'héritage se reçoit par la foi, au verset 16 du chapitre 4 des Romains, c'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui a la loi, c'est-à-dire le peuple juif, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que Christ est mort et ressuscité? Est-ce que quelqu'un croit cela? Amen. Il y en a quelques-uns, c'est formidable. Alors, pour tous ceux qui croient cela, on est concerné par cette généalogie, puisqu'il est dit que Abraham est notre père à tous. Comme le dit l'Écriture, « Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. » Donc j'ai découvert que nous avons un aïeul en commun qui a vécu au XXe siècle avant Christ. Qu'est-ce qu'on apprend concernant... Alors, je vais passer vite sur certains passages qui me passionnent, ça va être la partie compliquée. Mais cependant, vous pouvez prendre... des notes et puis relire l'histoire de notre aïeul Abraham et on va plus précisément s'arrêter sur un des épisodes de la vie d'Abraham. Donc il y a beaucoup d'épisodes en réalité, mais celui particulièrement que vous pourrez également relire à la maison, c'est Genèse chapitre 22 et des versets 1 à 19. Genèse, chapitre 22, des versets 1 à 19. Et c'est particulièrement également lorsque on va parler de cela, où il y a cette nouvelle révélation. Révélation, c'est une découverte de quelque chose que l'on ne peut pas comprendre avec nos propres sens. Et donc, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et ce matin, dans tout ce qu'on va partager, je souhaiterais qu'on garde cela dans notre cœur et de dire, ce matin, montons ensemble à la montagne de l'Éternel. Je ne sais pas, chacun en est venu avec peut-être une forme différente. La semaine peut-être a été particulière, on a chacun un arrière-plan différent. Peut-être vous vous demandez même, finalement, qui est Dieu, qui est Christ. Mais je nous propose... ce matin, par la foi, de commencer ensemble cette ascension. On l'a déjà commencé hein, dans ce temps de louange. Et de monter à la montagne de l'Éternel. Et de se laisser toucher d'une manière nouvelle par notre Dieu. Mais qui est notre aïeul? Vous avez des éléments, certainement. Hein. Donc, il a habité, au départ, dans une région qui s'appelle la Mésopotamie. Et cette région, quand on parle de Mésopotamie, c'est l'Irak actuel. Et c'est la partie du pays qui est entre l'Euphrate et le Tigre. Notre aïeul, Abraham, à la base, qui signifie « père excellent », Abraham, c'est quelqu'un qui est finalement honoré d'un point de vue social. Il est parlé de père excellent, père grand, quelqu'un qui finalement a une renommée sociale. Il vit dans ce pays et on sait que c'est un citadin. Les archéologues nous disent que la ville de Ur, vous savez, vous avez une idée à peu près de combien d'habitants il y avait dans cette ville. Les archéologues, 20 000, qui dit mieux? En réalité, les archéologues pensent qu'il y a plus de 250 000 habitants dans cette région. Une région fertile, à cause évidemment de ces fleuves. Et à un moment donné, on sait également qu'il y a un certain nombre de dieux. Donc c'est la première population historiquement était connue comme étant la population sumérienne. Et pourquoi on parle de ça? Ne vous endormez pas tout de suite. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que dans cette culture qui est indo-européenne, il y avait 5000, on a répertorié 5000 dieux différents. Et notamment, il y avait une coutume qui voulait que quand on construisait un temple, quand on construisait un palais, on sacrifiait des enfants et on les mettait dans les fondations. C'était habituel par rapport à la culture, par rapport aux dieux. Et on a retrouvé, d'ailleurs, les archéologues ont retrouvé dans la forteresse de Megiddo, au nord de Jérusalem, ils ont retrouvé dans les fondements de la forteresse une jeune fille de 18 ans qui a été cimentée dans les fondations. Pourquoi ils faisaient cela? Alors ça nous choque, hein, c'est choquant, mais dans cette culture-là, c'était pour demander la protection des dieux. Et à un moment donné, notre aïeul, Abraham, va quitter Ur et va aller à Haran. Haran, c'est le sud de la Turquie actuelle. Il part avec son père, sa famille. Ils vont s'installer là-bas, on est toujours en Mésopotamie. Et voilà que Dieu va lui parler. Dieu lui parle et lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille et va vers le pays que je te montrerai. Quand il quitte ce pays, il a 75 ans, à la mort de son père. Et il va se diriger, vous l'avez hein, sur la carte, il va se diriger vers Canaan, l'Israël actuel. Et vous pourrez relire dans l'histoire d'Abraham un certain nombre d'épisodes qui finalement nous montrent qu'il a vécu un contact, une relation avec le Dieu créateur. C'est Elohim, le Dieu créateur. Et Dieu va lui parler d'une manière particulière. Et ce qui est spécifique dans toute la vie d'Abraham d'abord, qui est notre aïeul, qui est le père de la foi, qui est finalement, on est la descendance, et on va voir en quoi ça nous concerne, eh bien Dieu va lui parler et va lui demander des choses qui sont assez étonnantes et défiantes. Et notamment, il lui demande de quitter son pays, et on va voir qu'Abraham va le faire. Il quitte son pays, et vous pouvez trouver dans Actes 7, Étienne en parle, Genèse 12, également, c'est le départ de ce pays. Et puis, il va même rencontrer, dans son périple, dans Genèse 14, un homme qu'il voit, et vous avez entendu parler de Melchisédek. Et on a le parallèle dans Hébreux 7, je ne fais que les citer. Mais Abraham entend la voix de Dieu, il prend le risque d'obéir, et de mettre en pratique. Et en même temps, parce qu'il met en pratique, il va vivre un certain nombre de choses assez extraordinaires. Notamment, il va rencontrer Melchisédek, et on le sait, le parallèle, en réalité, c'est Jésus-Christ. Il va rencontrer Christ avant l'heure. Extraordinaire, hein ? Il va rencontrer Dieu avant l'heure. Dieu va faire alliance. Dieu va s'engager. Comme Dieu s'est engagé après le péché, Dieu va s'engager avec Noé de ne plus détruire la terre. Dieu va s'engager avec Abraham et il va lui dire quoi ? Vous vous souvenez les promesses que Dieu fait à notre aïeul ? Qu'est-ce qu'il fait comme promesse ? Il lui dit, tu vas avoir une descendance, tu vas avoir un pays et surtout, écoutez bien, je vais bénir, te bénir et bénir les nations au travers de ta descendance. Waouh ! Est-ce que ce n'est pas un appel extraordinaire ? En quoi ça nous concerne cette histoire d'il y a plus de 40 siècles ? Ben, parce que nous sommes la descendance d'Abraham, parce que nous avons cru et parce que Christ est notre sauveur et que la promesse pour nos vies et pour notre Église et pour l'Église de Christ en général reste la même. Je bénirai les nations et pourquoi et comment ? Parce que Christ est mort, il est ressuscité au travers de cette nouvelle alliance. À ce moment-là, eh bien, nous sommes dans cette aventure. Nous sommes dans cette aventure. Nous sommes engagés dans la relation privilégiée avec Dieu. Dieu nous fait des promesses, et notamment que non seulement nous sommes réconciliés avec Dieu au travers de Christ, mais notre vie a un sens extraordinaire. Dieu se sert de nous dans nos faiblesses, dans nos limites, pour toucher les nations. Amen. Alors, quand on entend toucher les nations, on dit, bon, j'essaye déjà de survivre moi, donc toucher les nations. Mais la réalité, c'est qu'on a plein de personnes autour de nous qui viennent d'endroits différents, d'arrière-plans différents. Et ce que nous faisons a du sens, est important. Alors, quand on parle d'Abraham, on se dit, bon, le standard est élevé, parce que on parle d'Abraham, le père de la foi. Donc quand c'est trop élevé, on peut se dire, bon, moi je ne suis pas à la hauteur. Mais on a aussi besoin de se souvenir que notre aïeul, que nous avons en commun, a eu ses faiblesses, parce qu'il a également menti, demi-mensonge, en disant que sa femme était sa sœur. Et puis surtout, il a essayé de donner un coup de main à Dieu dans l'accomplissement de la promesse. Vous vous souvenez ? Dieu lui dit, tu vas avoir un fils, je vais te donner un fils. 75 ans, quand il parle de Haran, il arrive à Sichem, donc régulièrement Dieu lui parle. Et vous savez combien de temps il a dû attendre entre le moment où Dieu lui fait la promesse et le moment où Isaac arrive, à peu près. Je vous fais participer. Hein. 25 ans, bravo. Mais comme c'est long, 25 ans, à un moment donné, il a voulu donner un coup de main. Il s'est dit, mais Dieu, c'est long, quoi. Alors sa femme a eu une bonne idée, et lui aussi, enfin une bonne idée entre parenthèses, de dire, bon, on va accélérer les choses, tu vas aller avec la servante, etc., et puis tu auras un fils. Donc c'est comme ça que, je crois, 11 ou 12 ans avant, il a eu Ismaël. Mais on sait par expérience, je ne sais pas si vous, dans votre vie chrétienne, vous le savez, mais quand on essaye de faire les choses par nos propres forces, parce que c'est long des fois avec Dieu, à ce moment-là, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Et puis surtout, c'est un apprentissage qui est quand même très particulier, de dire, si Dieu me dit, ça peut être autant pour un voyage missionnaire, pour un ministère, mais ça peut être aussi, par exemple, pour le témoignage de quelqu'un. On prie pour quelqu'un dans notre famille, on peut prier pour une guérison. Moi, je me souviens, je vous l'ai déjà dit, mais ça m'a tellement frappé, de cette sœur qui a prié des années pour la conversion de son mari. Des années. Et nous, on a assisté à la... On introduit quelqu'un en tant que pasteur, ministère, donc il y avait une reconnaissance de ministère. Et cet homme était reconnu comme pasteur. La femme témoigne, elle dit, j'ai prié pendant des années pour sa conversion. Et aujourd'hui, elle était en pleurs, c'était extraordinaire. Donc, alliance, l'ADN. Quel est l'ADN d'Abraham, de notre aïeul ? Je vous invite, on l'a lu, Romains 4, 16, il a la foi. Il marche devant « Je suis », Il craint Dieu, il écoute sa voix, il a eu du courage. Il est notre Père dans ce sens que finalement nous savons, il n'est pas Dieu, mais il nous a ouvert et il nous a laissé un exemple. Quel est l'ADN d'Abraham ? Abraham, on peut dire effectivement qu'il a été courageux, qu'il a la foi, qu'il a pris des risques. Et il nous communique quelque part, il va communiquer cet ADN aux générations futures. Et je voudrais vous parler de cela dans ce passage de Genèse 22. On pourrait encore approfondir quand on lit dans Hébreux 11. Hébreux 11, on voit trois, je dirais, victoires majeures. Qu'est-ce qui caractérise Abraham et Sarai? Quand on lit Hébreux 11, on a le fait de quitter son pays, de prendre des risques, le fait de croire dans la venue de ce fils, alors que Sarai était stérile. Et la troisième, c'est ce dont on va parler plus précisément, c'est de croire que lorsque Dieu lui demande ce qu'il lui a donné, il est capable de ressusciter, de le ressusciter. Et ça, c'est trois victoires majeures qui nous parlent en tant qu'ADN. ADN. On pourrait développer, c'est intéressant, hein, mais je ne vais pas le faire parce que je voudrais vraiment me focaliser sur Genèse 2. Dernière chose avant peut-être de parler de Genèse 22. Vous savez ce qui s'est passé avec Abraham ? Avec Abraham, vous savez ce qui s'est passé ? Est-ce que Abraham a changé de nom ? D'Abraham à Abraham. Et Sarai est passé Sarai à Sarah. Vous vous souvenez de ça ? Quelle est la signification ? Abraham, c'est un père excellent. C'est quelqu'un qui est reconnu socialement, qui a une notoriété. Et Abraham va passer, au travers de son obéissance, au travers de la parole de Dieu, va passer à Abraham, le père des nations. Celui qui va, au travers de la descendance, au travers de la postérité, bien, il va être un vecteur pour la bénédiction des nations. Sarai passe à Sarah. La signification, c'est princesse. Il y a une dignité. Il y a comme quelque chose de précieux. On pourrait se dire, bon, princesse, c'est honorifique, mais aux yeux de Dieu, Sarai, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, a été méprisée. Elle a été dans la souffrance, dans la solitude, pendant des années et des années. Et le changement de nom, ce n'est pas juste une figure de style, c'est qu'aux yeux de Dieu, Dieu l'a rétablie dans son identité de femme. Dieu l'a rétablie dans l'honneur, dans quelque chose de beau dans le regard que Dieu a pour elle. Et après, le regard va changer autour. On pourrait aussi développer. Prenons Genèse 22. Pourquoi on a parlé de cela ? Parce qu'on ne peut pas parler de Genèse 22 sans avoir évoqué un petit peu les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Genèse 22, voilà que Abraham maintenant a cheminé, il a changé de nom, changé de caractère. Il a déjà entendu la voix de Dieu. Superbe, il a Isaac. Le fils de la promesse est là. Il va pouvoir enfin entrer dans son plein appel. Enfin, il a l'exaucement à la prière. Enfin. Et on voit dans ce texte, c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas. On voit dans ce texte que Dieu va lui demander quelque chose. Comment ? Alors, on connaît le texte pour la plupart, donc c'est un petit peu comme quelque chose qui ronronne. Mais comment, si on devait le lire pour la première fois ? Vous voyez ici, hein, après cela, donc après tout cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Celui-ci me répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes ». Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham, celui-ci répondit, me voici. Et puis, il va lui dire, va sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. À ce moment-là, humainement, si on lit le texte pour la première fois, on est dans ce contexte de cet appel pour bénir les nations. Et voilà que Dieu va faire, va poser, va demander quelque chose qui est, je dirais, avec tout le respect que l'on peut avoir pour Dieu, mais la demande en soi, elle est aberrante. Il met 25 ans pour avoir le fils de la promesse. Et Dieu lui dit, prends ton fils et sacrifie-le. À ce moment-là, est-ce qu'on peut imaginer comment nous, on aurait réagi? Elle est contre toute éthique, puisque la Bible nous dit que ensuite on aura la loi, tu ne tueras pas. Même éthiquement, c'est quelque chose de bizarre. D'un point de vue émotionnel, on peut imaginer ce que ça a pu créer dans le cœur d'Abraham et de Sarah. Donc éthiquement, moralement, intellectuellement, tout est choquant en réalité. Tout est choquant. On peut toujours dire qu'effectivement, dans la culture d'Abraham, ben, ils ont l'habitude, entre guillemets, de voir des sacrifices d'enfants. Mais ça n'explique pas tout. Ce qui m'a frappé dans le texte, vous remarquerez, quand Dieu parle, à chaque fois, Abraham dit quelque chose. Vous le remarquez, c'est en bleu. Il dit quoi exactement? À chaque fois que Dieu va parler, à trois reprises dans ce texte, regardez, au verset 1, ensuite vous l'avez au verset 2, puis vous l'avez aussi après, un petit peu plus loin, au verset 11. À chaque fois, Abraham dira, me voici, me voici. Autrement dit, Dieu lui demande quelque chose de complètement aberrant, de complètement défiant, mais finalement, il ne va pas rentrer dans une explication de texte, il ne va pas essayer d'argumenter. Pourtant, on peut imaginer ce qu'il a dans son cœur. Hein. Mais Dieu lui demande quelque chose, et lui demande quelque chose de difficile, de difficile. Alors Abraham, la seule des réponses qu'il va donner, intérieurement, ça doit combattre, mais ce qu'il va répondre à Dieu, qu'il a déjà entendu, il a déjà pris des risques, il a quitté son pays, il a fait plein de choses, il a rencontré, etc., comme on l'a dit. Mais voilà qu'il arrive à un moment crucial de sa vie et de son ministère. Moment crucial, c'est une épreuve pour lui, mais c'est également une épreuve pour l'Éternel. C'est une épreuve pourquoi ? Parce qu'on va le voir après, nous qui connaissons la fin de l'histoire, on se rend compte que cette épreuve, cette montée vers la montagne de l'Éternel, Morija, qui sera ensuite là où le temple de Salomon va être construit, et c'est dans le secteur, le lieu du crâne, où Christ va être crucifié, ressuscité, c'est le lieu de la rencontre. Les montagnes, dans la parole de Dieu, on voit même dans l'Ancien Testament, c'est la montagne représente le lieu de la révélation, le lieu de la rencontre, le lieu de la consécration. On voit Horeb, le Sinaï, on voit Jésus qui monte sur le mont, il va donner le mont des béatitudes, il va guérir. C'est symboliquement le lieu de la rencontre, le lieu avec Dieu. Mais il prend son fils et il va arriver avec ses serviteurs, ses ânes, il arrive dans la vallée et là c'est un grand, grand moment de solitude. Il va dire aux serviteurs qui gardent les ânes, restez là et nous on va monter. Et dans cette montée, il choisit d'obéir à Dieu. Dans Hébreux, on a un indice. Ce n'est pas une résignation simplement comme cela. Ce n'est pas simplement, mais bon, finalement Dieu est comme tous les autres. Hein. Finalement, il m'a béni, il m'a donné, mais finalement, il me demande de sacrifier mon fils comme tous les dieux qu'il y a là. Finalement, Dieu n'est pas différent. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup d'espoir. J'avais vraiment de l'espoir. Et puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Dieu m'a déçu. Finalement, est-ce qu'il est vraiment différent? Il y a tout un dialogue qui a pu se passer dans le cœur d'Abraham. Mais au fond, la Bible nous dit que dans Hébreux, il est dit que dans son cœur, il pensait que Dieu était assez puissant pour même ressusciter son fils. Donc il y va avec la conscience que finalement Dieu lui demande, mais en même temps que Dieu a la capacité de ressusciter Isaac. Il est prêt à aller jusqu'au bout, il monte sur la montagne. J'ai une question à nous poser. Nous qui connaissons la fin de l'histoire, Est-ce que, si vous aviez à choisir à la place d'Abraham, est-ce que vous seriez resté, il n'y a aucun jeu de mots, hein, mauvais jeu de mots, est-ce que vous seriez resté avec les ânes en bas de la montagne? Ou est-ce que vous seriez monté sur la montagne, sachant la fin de l'histoire? Sachant que Abraham va vivre une nouvelle révélation de qui est Dieu. Et aussi que dans le partenariat, dans l'alliance, dans l'engagement qu'il a avec Elohim, Yahweh, je suis, parce que c'est ça dont il est question. La réalité, c'est qu'il y a un engagement parce qu'il y a eu alliance. L'alliance avec Dieu, l'alliance avec notre Dieu. Dieu s'est engagé pour nous. Dieu nous a tellement aimés, le Père, qu'il a donné son Fils, son unique, Jésus-Christ sur la croix. Et Christ est allé jusqu'au bout. Et de la même manière que Abraham monte sur cette montagne, je repense à notre Seigneur, à Gethsémané. C'est un voyage qui est un voyage de solitude. C'est un voyage où le choix personnel est déterminant. Il est avec Isaac, il regarde celui qu'il va redonner à l'Éternel. Et en même temps, Jésus est dans le jardin de Gethsémané et il sait qu'il est seul. Il est devant un choix. Si Jésus décidait ou avait décidé dans le jardin de Gethsémané de ne pas monter sur la croix, nous ne serions pas ici ce matin. Et Abraham va choisir d'aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, lorsqu'il monte sur cette montagne, eh bien, le niveau d'engagement de Dieu est total parce que vous savez quoi ? Quand Dieu demande ça à Abraham, il prend un réel risque. Parce que si Abraham avait dit non, vous avez vu dans le texte qu'on a sous les yeux, c'est le lieu, on a dit, de la révélation. Il y a deux révélations en réalité. Regardez au verset 11, 12. Pour Dieu, c'est une prise de risque et c'est une révélation également, parce qu'il dira, l'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Regardez au verset 15, au verset 16, lorsque Dieu parle à Abraham, il dira, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédiction. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je vais continuer avec toi. Je vais continuer mon partenariat avec toi, ma collaboration avec toi. Je vais continuer à me servir de toi pour que les prochaines générations puissent servir pour la bénédiction des nations. Et on sait que c'est en Christ. Et évidemment, pour Abraham, vous savez, la révélation de qui est Dieu, c'est quelque chose qui est importante et que l'on ne peut pas capter par nous-mêmes. De la part d'Abraham, il va répondre, il va dire, il le pensait, hein, il a dit à son fils, Dieu va pourvoir. Mais Abraham dira au verset 14, parce que le bélier va mourir à la place de son fils, Abraham va appeler ce lieu Adonai Jireh. Le Seigneur pourvoit, le Seigneur voit. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il est pourvu. Il sera pourvu. Dieu voit, Dieu pourvoit. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, on peut s'approcher de Dieu, on peut monter sur cette montagne, parce que Dieu a tout accompli en Christ. Amen. Mais en même temps, nous avons besoin, vous savez, des fois, on attend un peu des choses de Dieu. Des fois, on se dit, bah, Dieu va faire. Dieu va faire. Je prie et puis on attend que Dieu fasse tout en réalité. mais la réalité, c'est qu'on est dans un partenariat. Et lorsque Dieu nous parle, alors j'ai besoin juste de considérer ce qu'il me demande. S'il me demande de pardonner, s'il me demande de me repentir dans tel ou tel domaine, s'il me demande de m'engager dans tel ou tel service. Vous savez, l'Église de Christ, bien sûr, a un Dieu extraordinaire, mais il travaille en partenariat avec nous. Et il a besoin de notre engagement, il a besoin de notre obéissance, il a besoin de notre foi, il a besoin de cela pour que les nations soient bénies. Dieu a besoin de nous là où il nous appelle. Nous avons besoin de nous lever avec courage. Et c'est quelque chose qui est dans la, je dirais, personnelle. C'est quelque chose que Dieu nous demande à nous. Et Abraham n'a pas dit, oui, bon, tu me demandes ça à moi, mais à Lot, tu lui demandes quoi? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Je nous encourage dans ce moment, alors qu'on va prendre la Sainte-Cène dans quelques temps, dans quelques instants, juste à réfléchir et à dire, je veux monter sur cette montagne où Dieu pourvoit, Dieu a pourvu. Je crois profondément dans la guérison divine. Je crois profondément dans la libération de la dépression. Je crois profondément dans l'espérance vivante, la vie de Dieu qui est libérée. Je crois cela, je crois que Dieu est capable de renouveler, donner un sens à nos vies. Dieu est capable de nous réconcilier non seulement avec le Père, mais avec ceux et celles avec qui on a des soucis. Je le crois profondément, mais Dieu est là et il ne nous force pas. Et il nous dit, est-ce que tu veux monter sur la montagne? Mais est-ce que tu veux amener avec toi ton ambition, tes pensées, tout ce qui t'appartient? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt à lui redonner ma vie, à lui redonner mon cœur, à lui redonner mon temps, à lui redonner mon argent? Est-ce que je suis prêt à répondre à son appel, à le servir? Pas parce que c'est un Dieu qui est un Dieu méchant, mais c'est un Dieu rempli d'amour. Et Dieu a continué avec Abraham parce que Abraham a dit, je suis d'accord, je crois en toi, je suis prêt à cela. Et Dieu dit dans la parole, dans sa parole, dans l'évangile de Jean, il dit, c'est si le grain ne meurt, eh bien, il reste tout seul. Il va rester sans porter de fruits. On a cela dans Jean 12, et c'est le verset 20 au verset 27, 28. C'est lorsque Jésus est sur la terre, il est avec ses disciples, et à ce moment-là, il y a des non-juifs qui veulent voir Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'on lui demande à Jésus, écoute, il y a des personnes qui ne sont pas juifs, mais qui veulent te rencontrer. Nous, on aurait pensé, mais c'est génial. Enfin, il va pouvoir témoigner, il va pouvoir les sauver, il va pouvoir faire quelque chose. Et Jésus dira dans sa sagesse et dans sa stratégie, il va répondre apparemment complètement à côté, il va dire, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et là où je suis, là aussi sera mon serviteur ou ma servante. Nous avons un Dieu extraordinaire qui s'est engagé à 100 ou 200%. Et en tant qu'Église, si nous voulons toucher les nations, Dieu nous invite à nous engager de cœur et en action dans notre comportement. Dans tout, avec tout ce que l'on est. Je repose ma question, si vous aviez à choisir, est-ce que vous seriez resté en bas dans la vallée ou est-ce que vous seriez monté sur la montagne? La montagne de la révélation, la montagne du sacrifice. Sacrifice que Dieu nous a donné, sacrifice que Abraham a offert. Et vous savez ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, il n'y a rien de plus passionnant, il n'y a rien de plus enthousiasmant, il n'y a rien de plus stratégique, d'important que d'être une église qui sait se donner pour Dieu, qui sait s'engager, qui sait faire des sacrifices. Dieu n'est pas un banquier en disant « tu me donnes ça, je vais te donner des intérêts ». Dieu est notre Père, Dieu est Créateur. Il ne nous doit rien. Il peut tout faire par lui-même. Je crois qu'il y avait une prière comme ça ce matin. Et cependant, il nous appelle dans ce partenariat, dans cette alliance. Et vous savez ce qui est fort, et je conclue avec ça. Vous savez ce qui est fort avec Abraham? C'est qu'en fait, il a amené avec lui Isaac, qui était un jeune ado. Ce n'était pas un enfant, il avait déjà un certain âge. 12 ans, 13 ans, peu importe. Mais en tout cas, ce n'était pas un enfant. Et vous savez qu'Isaac, il aurait pu très bien dire, mais attends, moi je ne suis pas d'accord du tout, du tout. Je ne suis pas d'accord. C'est bien sûr une image de Christ qui donne sa vie, comme Isaac a donné sa vie. Mais vous imaginez ce qu'ils ont vécu sur cette montagne. Vous savez, cette extraordinaire révélation. Mais que Dieu pourvoit et qu'il a pourvu. C'était prophétique par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui en Christ. Mais vous savez ce que ça a créé dans le cœur de cet ado ? C'est qu'il est descendu de la montagne. Et autant pour Abraham, ça a été percutant, autant pour cet ado qui a vécu ça. Ça a été fondateur pour la suite. Comment cet ADN a pu passer de génération en génération ? Comment ? Parce qu'Abraham n'a pas seulement vécu des choses fortes, il l'a vécu avec son fils. Et quand Isaac a vécu cela, eh bien c'est quelque chose qu'il a dû retransmettre ensuite à ses enfants, et ainsi de suite. En tant qu'église, qu'est-ce qu'on a envie de passer à cette jeune génération ? Une église qui se tape sur le nez ? Une église qui reste à la maison et qui va au ski ou faire du ski nautique au lieu d'évangéliser ou au lieu d'aller à la réunion de prière ? Ou est-ce qu'on va communiquer ? Et je parle à moi en premier, de me dire c'est un réel défi. De dire mais je ne vis pas ma vie chrétienne seulement pour ma vie, pour moi-même, pour être bien, pour être spirituel. Je la vis pour plaire à Dieu, pour que le royaume de Dieu avance et que le Seigneur puisse communiquer une ADN de foi, de respect, de crainte de Dieu, d'obéissance à cette jeune génération. Parce que vous savez, on est conscient que pour beaucoup d'entre nous, dans, je sais pas, 30, 40 ans, 50 ans, on sera plus là. Les jeunes, ils seront encore là. Et c'est eux qui prennent le relais, ils l'ont déjà. Hein. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît ? Et puis on va juste prier. Merci Père. Et je voudrais simplement nous inviter ensemble, et je pense que Floriane va nous conduire dans le temps de la Sainte Cène, mais que simplement on est cœur à cœur avec notre Père. Cœur à cœur avec notre Seigneur. Et nous avons la possibilité soit de rester dans la vallée ou de monter à la montagne de l'Éternel. La différence, c'est qu'on monte à la montagne et on sait que Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Et alors qu'on va déclarer cela en prenant la Sainte Cène, mais d'ores et déjà, là où nous sommes, on peut déjà monter et dire « Père éternel, je viens ». Je m'approche de toi au travers du sang de Christ, au travers de ce voile qui est déchiré. Et en même temps, c'est quelque chose de très personnel, peut-être que Dieu nous demande de lui redonner ou de lui donner. Peut-être de lui donner notre vie pour ceux qui ne le connaissent pas. Peut-être de lui redonner notre temps. Peut-être de lui redonner notre fils, notre fille. De lui redonner notre mari, notre... Peut-être que le travail a pris trop de place. Ou peut-être les études, ou je ne sais pas. Peut-être des choses qui ont pris la place de Dieu. Et c'est un don et c'est un talent que Dieu a donné. Et Abraham a choisi de redonner à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Il ne l'a pas gardé. Et je nous encourage dans ce moment de nous placer devant Dieu, de nous placer devant Christ et de lui dire, écoute, voilà ma vie, voilà mon emploi du temps, voilà... Je me redonne à toi, parce que fondamentalement, c'est notre ADN. Nous sommes un peuple appelé à être un peuple saint, et c'est ce que nous sommes, et être entre ses mains un vecteur de bénédiction pour que ces générations puissent être bénies et que toutes ces nations puissent connaître le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen.